RTS La Première présente Mystifica Science, un podcast de CQFD qui s'intéresse aux grandes impostures scientifiques, avec l'agente Leslie et Adrien Zerbini.
Ce serait la base d'une arme digne des films de science-fiction, le Grazer, un rayon laser, non pas à base de lumière, mais d'ondes gamma. En gros, un rayon de la mort qui vous permet à distance de découper votre adversaire avec un rayon radioactif. Mais pendant la guerre froide, le Grazer a été à l'origine d'une mystification scientifique qui a coûté très cher à l'Union soviétique. Une histoire très peu connue, sauf bien entendu par l'agente Leslie.
L'idée de base était très simple. Il fallait mettre les services secrets soviétiques, les KGB, sur une fausse piste. Leur faire croire que les Alliés étaient en train de développer une arme qui les rendrait invincibles. Et puis espérer que les Soviétiques morts à l'hameçon.
Ça veut dire espérer qu'ils suivent cette fausse piste avec détermination, c'est ça?
Voilà. Que, si possible, les budgets militaires soviétiques soient captés par ces recherches dont on sait qu'elles n'aboutiront pas. Finalement, c'est assez rassurant de savoir que les cerveaux les plus brillants et les sommes d'argent les plus importantes de vos ennemis sont utilisées en pure perte.
Et c'est là qu'apparaît donc ce Grazer, ce laser gamma.
Comme toujours, vous êtes trop pressés. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut se rappeler de ce qu'on appelait la direction T du KGB. C'était le département des services secrets soviétiques qui s'occupe de renseignements scientifiques et techniques. En ce début des années 80, une grande partie de la recherche scientifique soviétique est orientée par le KGB. En fait, le KGB espionne ce qu'ils font les chercheurs en Occident et ils tentent de faire pareil, ou mieux. D'ailleurs, quand on y pense, c'est assez triste. Parce qu'à cette époque, l'Union soviétique n'avait pas du tout confiance en ses scientifiques. Les grandes orientations de recherche étaient en bonne partie guidées par le KGB.
Et comment est-ce que vous pouvez affirmer une chose pareille et en être certaine comme ça?
La question n'est pas de savoir comment je le sais, mais comment les services secrets occidentaux ont pu le savoir à l'époque. Et quand vous aimez les romans d'espionnage, je veux vous faire plaisir. C'est grâce à un agent double, tout à fait extraordinaire, qu'on a pu savoir exactement ce qui s'est passé dans la recherche scientifique soviétique au début des années 80. Il s'appelle Vladimir Vetrov. Nom de code, farewell. C'est un ingénieur brillant, recruté par le KGB et placé à l'ambassade de l'URSS en France à Paris dès 1965. Là, sur la casquette d'attaché au développement du commerce soviétique, il cherche à tout savoir sur la recherche en France. On pourrait parler des heures de farewell. Mais retenons simplement qu'au fil des années, il est de moins en moins convaincu par les valeurs de son employeur.
Son employeur, vous voulez dire le KGB?
Oui, oui. Et même globalement, l'Union soviétique. En 1980, il se décide à faire le grand saut et à contacter le contre-espionnage de la DST.
La DST, c'était la direction de la surveillance et du territoire. Autrement dit, ce sont les services secrets français.
Exactement.
Donc, Farewell va collaborer avec la France.
Et de manière très assidue même. Entre 80 et 82, presque 3000 pages de documents classés « top secret » vont être photographiés par Farewell et communiqués à la DST. Et là, effectivement, les alliés auront une idée très précise de l'état de la recherche scientifique en Union soviétique. Et croyez-moi, ces 3000 pages de documents vont être étudiées dans le détail.
Et c'est là qu'on découvre, j'imagine, que les soviétiques travaillent sur le laser à rayon gamma, ce fameux graser.
Pas tout à fait. Disons qu'on découvre qu'un groupe de chercheurs soviétiques se passionne pour l'osmium.
L'osmium.
L'osmium est un des métaux les plus rares de la Terre. Il est de la même famille que l'or et le platine. Utilisé traditionnellement dans les becs de stylo-plume ou des aiguilles de tourne-disque et aussi pour l'éclairage dans les tubes fluorescents. Mais pourquoi les scientifiques russes s'intéressent-ils tellement à cet osmium? De nombreux chercheurs français ont voulu le comprendre. Et finalement, un ingénieur du Commissariat à l'énergie atomique, le CEA, va émettre l'hypothèse que, effectivement, c'était pour mettre au point le graser que les Soviétiques s'intéressent de près à l'osmium.
C'est le général Jean Guyot, ancien agent de la DST, qui a révélé dans un livre l'affaire du graser et de l'osmium. Selon les documents fournis par Farwell, les chercheurs russes étaient convaincus de l'utilité de l'osmium, mais plus précisément encore d'un isotope particulier de l'osmium, l'isotope 187. Alors, difficile de faire en 30 secondes un cours de physique-chimie sur les isotopes. Mais pour comprendre cette histoire, il faut simplement savoir qu'à l'état naturel, l'osmium a 7 isotopes différents. Et pour isoler l'isotope 187, il faut procéder à une séparation isotopique, ce qui n'est pas simple et fort coûteux. C'est justement l'une des raisons qui a poussé les alliés à cette mystification, comme nous le confirme l'agente Leslie.
Ce qu'il faut dire, c'est que les alliés ont travaillé ensemble dans cette affaire. Les services secrets français ont très rapidement contacté leurs homologues anglais et américains. Ce qui, soit dit en passant, a été très utile à François Mitterrand, qui venait d'être élu président.
Ah bon, et alors pourquoi est-ce que ça a été utile à Mitterrand?
Mais parce que Mitterrand, étant le premier président socialiste de France, les États-Unis voient en lui un potentiel ruge. Ils se demandent si la France de Mitterrand ne va pas changer de bord, pour ainsi dire.
Ah, et le fait que la France partage donc toutes les informations révélées par Farwell prouve qu'elle est bien toujours une véritable alliée, c'est ça?
Exactement. Mais revenons-en à notre osmium 187. La première chose que devaient faire les alliés, c'est s'assurer qu'on ne pouvait pas fabriquer un graser avec.
Oui, ce fameux laser à rayon gamma, cette arme absolue.
L'arme absolue, oui. Les scientifiques occidentaux ont vite compris qu'il n'y avait aucun risque. À partir de là, ils vont jouer ce qu'ils ont appelé le grand jeu. Un jeu qui se joue sur plusieurs tableaux. D'abord, au niveau des revues scientifiques, dont on savait pertinemment qu'elles étaient épluchées par le KGB. Le Physical Review a publié un premier article sur les propriétés étonnantes de l'osmium 187. Et puis, c'est la prestigieuse revue Nature qui lui a emboîté le pas.
Vous voulez dire que ces fameuses revues, donc relues par des pairs, des références scientifiques, ont publié sciemment de fausses études?
Mais vous êtes tellement naïf. Pendant la guerre froide, ça ne posait aucun problème à personne de faire ça. Et puis, durant les congrès scientifiques cooptés par le KGB, il y a eu pendant quelque temps des présentations sur l'osmium 187. Ça, c'est l'acte 1.
D'accord.
Acte 2, on arrête toutes les publications sur l'osmium et on demande à certaines entreprises de recherche américaines d'en acheter. Ça tombe bien. Les plus gros gisements sont au Kazakhstan, donc en Union soviétique.
Donc en fait, on simule une sorte de censure, comme si l'osmium devenait une substance stratégique, et on montre à l'URSS qu'on en a besoin, donc on l'achète.
Vraiment naïf, mais au moins vous comprenez vite. Enfin, acte 3, ça va se passer surtout en France. On va laisser fuiter des documents ultra secrets sur l'osmium avec des chercheurs tamponnés.
Des chercheurs tamponnés, qu'est-ce que c'est que ça?
Ce sont les chercheurs qui travaillaient dans les milieux sensibles, par exemple le commissariat de l'énergie atomique, et qui ont été approchés par le KGB. Ils ont même accepté de leur fournir quelques informations justement rétribuées.
Mmh, oui, mais alors s'ils ont été tamponnés, c'est qu'ils ont été aussi tamponnés par les services secrets français, la DST, c'est bien ça?
Mais donc, ils ne donnent au KGB que des documents choisis par le DST. Et vous l'imaginez bien, il s'agit de recherches ultra-sensibles sur l'osmium 187, qui décidément semble être la pierre angulaire de la mise au point du Graser, l'arme absolue.
Et est-ce que cette mystification a fonctionné? En d'autres termes, est-ce que l'URSS a vraiment planché sans succès sur cet osmium?
Eh bien, on ne l'a pas su immédiatement. Il faut dire que le fameux Farewell, le double espion, a été grillé et il a été exécuté d'un balle dans la nuque à Moscou en 1985. Malheureusement. Ensuite, on a laissé cette affaire de l'osmium et du Graser de côté. Et on l'a presque oublié. Mais en 1991, lorsque l'Union soviétique s'est disloquée, vous savez que beaucoup de matériel militaire s'est retrouvé disponible au marché noir. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'osmium 187 de disponible. Et les vendeurs tentaient de le vendre à des prix très élevés, sans aucun succès.
Évidemment, puisqu'il n'a aucune valeur stratégique. Donc, en fait, c'est en scrutant ce marché noir post-soviétique qu'on a enfin eu la preuve que l'imposture avait bel et bien fonctionné.
Exactement. Et en épluchant la presse russe, j'ai découvert qu'en 2003, les autorités avaient démantelé un réseau de trafic d'osmium 187 organisé, selon la presse russe, par des séparatistes tchétchènes, afin, je cite l'article de Sputnik, de mettre la main sur des technologies nucléaires top secret.
Alors bon, alors ça veut dire que quoi, l'osmium 187 aurait effectivement des propriétés intéressantes pour le développement d'une arme atomique?
Disons que certains le croient encore, en tout cas. Pour moi, c'est simplement la preuve que la mystification a marqué durablement les esprits.
Il y a autre chose qui m'étonne dans cette mystification. Vous nous avez dit que les chercheurs soviétiques travaillaient déjà sur l'osmium 187 et ce fameux laser gamma avant même le début de cette imposture. Alors finalement, pourquoi avoir élaboré tout ceci à partir d'une idée qui venait des soviétiques?
Mais c'est le postulat de base de toute bonne intoxication. Pour faire tomber un arbre, il faut le pousser dans le sens où le vent le fait pencher. Les soviétiques pensaient que l'osmium était un métal extraordinaire. Il n'y avait plus qu'à pousser dans cette direction.
Et alors, dernière question, ce laser à rayon gamma, rayon de la mort, est-ce qu'il existe aujourd'hui?
Non. Mais demain, peut-être. Il faut dire que le Graser aurait également des applications médicales très intéressantes. Et donc, de nombreux chercheurs travaillent sur ce Graser. Il y a même des fonds publics européens qui sont attribués au Graser. C'est le projet Gamala. C'est très intéressant tout ça, mais vous qui êtes journaliste, vous pourriez aller vérifier, je crois, si une partie du financement du projet n'est pas militaire, histoire de s'assurer que vos enfants soient soignés par le Graser et non pas découpés en lamelles radioactives dans une guerre futuriste. Mais vous savez ce qu'on dit. Le pire n'est jamais certain.
Cet épisode de Mystifica Science a été réalisé par Rodolphe Beauchaud. Éditeur numérique, Sébastien Blanc. Attaché de production, Annette Kléber. Mystifica Science est un podcast de la RTS. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter et à le partager sur les réseaux sociaux. Et ne manquez pas notre prochain épisode qui sera mis en ligne lundi prochain.